Merci beaucoup. Merci à la librairie Mola. Ça me fait toujours plaisir de revenir à Bordeaux. La ville est de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on regratte les maisons. Et quand le soleil vient par-dessus le marché, c'est vraiment parfait. Depuis hier, nous interrogeons sur l'idée de système. Au XVIIIe siècle, aujourd'hui, en explorant les différents sens du mot, autrefois et dans notre vocabulaire. Alors, on pourrait tenter d'établir une grille et de chercher à y situer Diderot. Alors on dirait, il y a une pensée organisée, une pensée cohérente ou une pensée systématique. Une pensée organisée, c'est-à-dire qui assure les liens entre les différents éléments. Une pensée cohérente, ça veut dire que non seulement il y a des liens, mais qu'il y a une unité qui se crée et le système interviendrait lorsqu'il y aurait une forme de fermeture, de complétude et de fermeture. Mais je crois que cette conception abstraite d'un schéma général est mise à mal par l'histoire, c'est-à-dire par Diderot dans son temps et Diderot dans sa réception jusqu'à nous. Je m'explique. Dans son temps, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, dans une période de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a un système officiel, hein, qui est la pensée religieuse, qui, elle, a le droit et une forme de devoir d'être systématique, même s'il y a beaucoup de nuances et de variantes de cette pensée, et un individu comme Diderot ne peut pas développer un contre-système, je crois. D'autant plus que, jeune encore, il a fait l'expérience de la prison, il a été à Vincennes pour la lettre sur les aveugles, et il a bien décidé de ne pas y retourner. Ce qui veut dire qu'il va partager son œuvre entre ce qui est public, visible, officiel, l'encyclopédie, le théâtre, et des manuscrits qu'il garde pour lui ou qu'il diffuse à un très petit nombre de lecteurs. Par exemple, le périodique manuscrit auquel il donne la plupart de ses textes est recopié à 12, 15 exemplaires pour les têtes couronnées européennes. Ce qui est aussi un paradoxe de ce public extrêmement privilégié. Alors, ce qui veut dire que essayer d'organiser en système cette œuvre éclatée par les conditions de publication, c'est déjà, je crois, une gageure, et voire quelque chose d'impossible. Mais par ailleurs, dans sa réception, qui donc a été longue, les textes étant révélés progressivement au cours de la Révolution, puis du XIXe siècle, Diderot va souvent être accusé d'être dispersé, d'être un improvisateur de qualité, hein, mais un improvisateur. Donc, ses commentateurs les plus récents et les plus sérieux ont voulu insister sur, malgré tout, la cohérence de cet écrivain et de ce philosophe. Et un moment de cette histoire des lectures de Diderot a été l'insistance sur sa cohérence. Comme on se détermine par rapport à ce qui existe, en cette année finie du tricentenaire de sa naissance, j'ai peut-être eu tendance à vouloir à nouveau disperser la cohérence. Et la formule qui a servi de titre au livre, hein, cul par-dessus tête, insiste sur le refus de la hiérarchie traditionnelle, qui est une hiérarchie sociale, qui est une hiérarchie des valeurs, entre les valeurs supérieures, les arts libres, et d'autre part, les métiers, hein, les arts où on se salit les mains. Hiérarchie entre la tête ou la raison ou l'âme et puis le bas. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, plein de viscères et de choses obscures. Donc, dans cette tendance à défaire la systématicité, hein, je suis peut-être plus sensible aujourd'hui à cette résistance que Diderot oppose à la constitution, hein, d'une nouvelle, nouvelles idées, nouvelles valeurs, qui sont celles des Lumières, en train de s'organiser et qui vont ensuite, au cours du 19e et du 20e, devenir parfois systématiques avec, c'est ce que Diderot reprochait aux anciennes, à l'ancien système, hein, tout système a toujours le risque de devenir dogmatique. Le système qui a récupéré Diderot, c'est le matérialisme. Diderot a assez vite abandonné les certitudes religieuses, est devenu, après des études de théologie, à la Sorbonne, après un diplôme de théologie, puisque sa famille voulait qu'il entre dans une carrière ecclésiastique. Diderot a perdu la foi et s'est intéressé à une pensée matérialiste qui est sa constante. Hein, c'est ce à quoi il revient le plus souvent. Mais au XIXe siècle, une philosophie matérialiste s'est imposée, hein, qui était le marxisme, qui a été une des lectures dominantes de Diderot. Et pendant longtemps, on a situé notre philosophe par rapport à ce matérialisme, en sachant que Marx, Engels avaient distingué le matérialisme ancien, qui leur semblait encore entaché d'idéalisme, et le matérialisme qui serait dialectique et historique. Au XXe siècle, les philosophes ont donc définit le matérialisme de Diderot par rapport à cette tradition. Et il faut dire qu'à ce moment-là, l'université, hein, était réticente à s'occuper de Diderot. Moi, je me rappelle ma mère, qui serait centenaire maintenant, hein, qui avait des études supérieures, n'avait, durant toutes ses études, quasiment jamais lu un texte de Diderot. Elle ne connaissait pas. Elle avait entendu parler d'une seule œuvre, hein, Les regrets sur ma vieille robe de chambre. Donc, ça lui semblait un auteur vraiment totalement futile et peu intéressant. Elle a très vite changé d'avis grâce à son fils. Mais c'est assez caractéristique de cette ignorance. Et l'autre grand... le grand... historien de Diderot, hein, Jacques Proust, racontait comment lui aussi il a découvert Diderot après des études pendant la guerre où non seulement la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la plupart des écrivains du XVIIIe siècle étaient ignorés systématiquement et refoulé. On a donc défini la pensée de Diderot comme un matérialisme, et alors on a cherché des adjectifs qui permettraient de le caractériser. On a parlé d'un matérialisme biologique, bien que le mot biologique ne soit pas un terme de l'époque, un matérialisme éclectique, vitalo-chimique, ou, de manière plus poétique, Élisabeth de Fontenay a parlé d'un matérialisme enchanté, parce qu'elle voulait insister sur le fait que cette pensée était libertaire et irréductible à quelque philosophie autoritaire ou disciplinaire que ce soit. Je crois que cette recherche des adjectifs pour caractériser son matérialisme marque une époque. Et le même type d'attitude était semblable lorsqu'on essayait d'analyser la genèse de Diderot et de chercher des étapes. On disait, bon, alors il y a l'étudiant en théologie, puis il va passer par le théisme, c'est-à-dire il croit encore à une providence, le déisme, puis l'athéisme. Il part de l'idéalisme, il passe par le scepticisme, le matérialisme. Hein? Bon, pour des raisons pédagogiques, on découpe en tranches, comme cela, qui seraient des moments d'une évolution linéaire. On a tendance, puisqu'on est dans le sud-ouest, un Montaigne est comme ça, coupé en tranches. Pédagogiquement, c'est plus simple. Mais ce que nous pouvons nous demander aujourd'hui, c'est si ces termes abstraits, hein, déisme, scepticisme, matérialisme, correspondent au travail, au type de travail intellectuel de Diderot. Ce qui est certain, c'est qu'il renonce, assez jeune, à l'idée d'une création ex nihilo et d'une finalité, hein, que toute vie, tout ce qui existe, aurait un sens qui arriverait finalement. Et dans ce refus, ou plutôt l'envers de ce refus, c'est une sensibilité à la diversité du monde. Au bariolage du réel. Et cette position, hein, va l'amener à ne plus croire aux identités fixes, mais beaucoup plus aux changements, aux métamorphoses, aux transformations qui fait que les identités sont toujours éphémères, momentané, provisoire. Il faut pourtant donner du sens, donc établir des liens, des rapports, chercher des lois. Une des lois, c'est ce qu'on peut appeler l'empirisme, c'est-à-dire que les êtres humains ont une sensibilité. D'ailleurs, le singulier, d'ailleurs, même de sensibilité, est un problème. À des sens qui fournissent des informations, et ces informations permettent de constituer des idées. Mais la raison est toujours tâtonnante. Elle peut énoncer donc des lois provisoires. Ce matin, dans notre colloque, hein, notre collègue qui connaît le mieux l'encyclopédie nous a raconté l'évolution de cette grande entreprise depuis un schéma systématique vers un dictionnaire qui était beaucoup plus ouvert sur les réalités de la langue et qui donc mettait un peu à mal le beau système premier. Et qui acceptait, ce qui dérange toujours les systèmes, qui acceptait, qui même donnait un rôle décisif au hasard. Le hasard, c'est toujours un peu mortifiant. Nous sommes nés de la rencontre par hasard de cellules, ça aurait pu être celle d'à côté, etc. Et dans l'encyclopédie, il y a un hasard qui est l'ordre alphabétique, ou un ordre arbitraire. Mais Diderot ne cesse de jouer là-dessus. Et il joue même sur ce qui pourrait révulser un penseur systématique, il accepte les suggestions du signifiant, c'est-à-dire, il fait des jeux de mots souvent. Exemple, dans le rêve de D'Alembert, pour essayer de penser à partir de bases proprement matérielles, l'apparition de la sensibilité dans l'homme, puis de la pensée, voire du génie, hein, qui est une forme supérieure, le génie créateur, les grands philosophes, les grands artistes, il va jouer du jeu de mots entre raisonner, une corde qui résonne, hein, et raisonner, utiliser sa raison. Pourquoi ? Parce qu'il compare les cordes vibrantes qui viennent d'être fondées mathématiquement, hein, on a les équations des cordes de vibrantes, et il compare cela aux fibres qui constituent les êtres vivants, en particulier l'être humain, et en particulier les fibres cérébrales. Donc vous avez à la fois un jeu de mots, raisonner, raisonner, une comparaison, et la pensée s'organise en acceptant ce point de départ qui est un jeu de mots. Et de même, un être humain est constitué, alors nous on va dire de cellules, et toute la question c'est comment on passe de cellules juxtaposées à des cellules organisées. Et tout un passage tourne autour du jeu de mots entre contigu et continu. Et on s'aperçoit comme ça chez Diderot que très souvent le jeu de mots a une fonction d'encouragement à la pensée, de point de départ et d'encouragement à la pensée. Et je crois, ce n'est pas toujours souligné, que dans le neveu de Rameau, le fait que le personnage principal s'appelle Rameau est essentiel, étant donné que, alors bien sûr il s'appelle Rameau parce qu'il est le neveu de son oncle qui est le grand musicien, mais le Rameau c'est aussi une image dont on a montré souvent là qu'elle était essentielle avec celle de l'arbre pour concevoir les rapports entre les domaines de la pensée. Donc vous voyez, les jeux de mots ont un statut dans le développement de la réflexion de Diderot. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, les conditions historiques dans lesquelles il travaille, l'interdiction parfois tournée, mais qui existe, de publier officiellement des textes mettant en cause la pensée systématique d'Ancien Régime, ces conditions sont de l'ordre de conditions extérieures qui interviennent pour influencer sa pensée. Alors vous allez me dire, mais enfin, il y a des textes publiés à l'extérieur du royaume et qui rentrent clandestinement, oui, Diderot les connaît, parfois y a collaboré. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au même moment, le groupe réuni par le baron d'Holbach, qui est un riche financier installé à Paris, et qui est, comme Diderot, foncièrement matérialiste, ce groupe compose, fait publier et diffuse clandestinement le système de la nature. Là, on a une théorie totalement cohérente et, comme le titre l'indique, systématique. Diderot a peut-être écrit un certain nombre de passages, de pages de cet ensemble. Il a vraisemblablement relu des chapitres. En tout cas, il y adhère. Mais ce qu'il fait, lui, est à côté très différent. Parce que il va écrire sa démarche intellectuelle en tant qu'écrivain, et la manière dont il écrit va être l'image même de la conception qu'il se fait de la nature et de la matière. C'est-à-dire que le système de la nature est une présentation en traité par quelqu'un d'abstrait, hein, c'est un philosophe qui n'a pas d'identité. Alors que Diderot, lui, va presque toujours se mettre en scène comme individu, dans ses textes qui ne sont pas publiés officiellement. Il se met en scène comme individu qui sait qu'il n'invente pas, il ne peut pas inventer tout seul un système, mais il reprend des textes et il les réécrit, il dialogue avec eux, il les métamorphose et il nous les offre pour nous-mêmes continuer cette chaîne de transformation. Il avait bien commencé par publier un certain nombre de textes, les Pensées philosophiques, par exemple, et on voit aussi comment dans ces Pensées philosophiques, toute une série d'éléments viennent d'ailleurs. Il a publié le philosophe anglais Shaftesbury, et on peut voir qu'il emprunte à Shaftesbury beaucoup d'éléments. Ceux qui veulent absolument mettre en accusation Diderot disent qu'il plagie. Non. Il met en avant sa manière de penser et d'écrire comme la nature qui ne cesse de passer d'un état à l'autre. D'autre part, dans ses pensées philosophiques, il va évoquer toute une série de positions possibles de pensée. Alors, il y a le chrétien orthodoxe, mais même sous ce nom, il y a beaucoup de positions différentes. Il y a le théiste, encore une fois, c'est là où il distingue le théiste qui croit à un créateur et un créateur providentiel, le déiste, qui croit à un créateur, mais ensuite qui n'intervient plus dans la marche du monde, le sceptique, il dit on ne peut pas savoir, parfois même il distingue le pyrrhonien et le sceptique, deux types de scepticisme, et puis l'athée. Et comme dans un jeu de bonneteau, vous savez, ces positions harcèlent le système officiel, mais n'aboutissent jamais, on ne sait jamais où est la position même de Diderot. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre en cause de manière critique un système et de nous laisser, nous, lecteurs, nous débrouiller et continuer le travail intellectuel. Et dans toute son œuvre, il me semble, toute son œuvre au sens de, au singulier, hein, tout son travail intellectuel, on va toujours avoir une tension entre la diversité du monde, l'irréductible variété des êtres et des choses, et la nécessité pour vivre dans le monde, il faut le connaître, le comprendre, et donc établir une unité. Une unité de tout, ou, mais c'est déjà un pas important, du tout. Dans certains textes, il joue sur la différence entre tout ce qui existe et le tout qui déjà établit une unité. Et comme Diderot, dans ces années-là, est aussi celui qui fait les comptes rendus des expositions de peinture, hein, dans ses salons, hein, souvent il insiste sur le fait que selon la place d'où on regarde un tableau, eh bien, c'est une série de tâches ou au contraire, ça a un sens. Et on a l'impression que dans son œuvre, de la même manière, hein, il change de position pour insister sur la diversité ou au contraire, essayer de retrouver une unité. Et l'idée que je voudrais défendre, c'est que son travail intellectuel se développe à partir de concepts, mais également d'image. Hein, on ne peut pas distinguer chez Diderot un penseur dont on peut montrer la cohérence conceptuelle et un écrivain qui joue de métaphores et d'images. Rapidement, je voudrais suivre comme ça deux images, celle de la diversité du monde et celle de l'unité. La diversité, il la rattache à un concept qu'il emprunte au philosophe allemand Leibniz, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais qu'on a rapproché souvent d'un concept leibnizien, ce qu'on appelle les indiscernables, hein, c'est-à-dire que vous prenez deux individus, ils ne peuvent pas être exactement remplaçables l'un par l'autre. Et non seulement dans le moment présent, mais même dans la suite des temps, on n'aura jamais la reproduction, sauf peut-être si les biotechnologies... mais même dans le cas du clonage... Hein, il n'y aura sans doute pas exactement le même individu. Je me suis repris à propos de Leibniz parce que cette idée, on la trouvait chez toute une série de théologiens, chez par exemple Malebranche, qui, eux, défendaient également l'idée qu'aucun individu n'était remplaçable par un autre, mais qui mettait cette infinie diversité au compte de l'infini pouvoir créateur de Dieu. C'était même la preuve, hein, d'un créateur capable de former sans cesse, de manière inépuisable, des individus différents. Et là, on a également un élément décisif, dans, je trouve, dans le travail intellectuel de Diderot, c'est qu'il adore utiliser des arguments qui semblent être opposés au matérialisme et à l'athéisme. Et il en change le sens. La diversité des individus, pour Malebranche, pour Leibniz, s'inscrivent dans un système de pensée autour du Créateur et de la Providence. Chez Diderot, au contraire, c'est la preuve de l'impossibilité de jamais fixer une règle et un ordre définitif. Parce que tout est toujours différent. Le philosophe, lui, est forcément l'homme des généralités. Le savant observe, donc note des différences, mais essaye d'en tirer des lois. Diderot, homme des Lumières, hein, est ce type de philosophe et ce type de savant. Mais en même temps, il relativise les lois et il nous fait douter un peu des généralités, qui sont des approximations. Hein, nous avons tous des expériences différentes, des organisations physiques différentes. Donc, si nos idées viennent de notre expérience sensorielle, ces idées sont jamais exactement les mêmes. Eh bien, il faut tâtonner, et c'est un terme qu'il aime, Diderot, il faut tâtonner, travailler par approximation. Et c'est vrai aussi bien dans le domaine philosophique que dans le domaine politique. Cette théorie des indiscernables prend déjà chez Leibniz la forme d'une image, ou plutôt de deux images, qui sont celles, au-delà des individus, ça semble évident que les individus humains sont différents tous. Mais même dans la nature, même dans la nature matérielle, dit Leibniz, il prend deux exemples. Il n'y a pas deux feuilles d'arbres identiques, quand on les regarde de près. Il n'y a pas deux gouttes d'eau parfaitement semblables. Diderot, tout au long de son œuvre, va utiliser ces images, les développer, les transformer, en choisir d'autres parallèles. Pensée sur l'interprétation de la nature en 1754. Sur tout arbre, il n'y aurait pas deux feuilles sensiblement du même vert. Il n'y en a peut-être jamais eu, et il n'y aura peut-être jamais dans la nature deux brins d'herbe absolument du même vert. Si les êtres s'altèrent successivement en passant par les nuances les plus imperceptibles, le temps qui ne s'arrête point doit mettre à la longue, entre les formes qui ont existé très anciennement, celles qui existent aujourd'hui, celles qui existeront dans les siècles reculés, la différence la plus grande. Diderot n'est pas Leibniz, aussi par sa manière d'écrire. Pour l'image, pour Leibniz, c'est rendre sensible une idée. Alors que Diderot joue sur les adverbes, hein, vous avez entendu, il n'y aurait pas deux feuilles sensiblement du même vert. Et ensuite, il reprend deux brins d'herbe absolument du même vert. La différence est à la fois topologique, parce que même deux éléments qui seraient parfaitement semblables, ils sont à des endroits différents. Donc, il y a déjà cette différence. Mais elle est également donc chronologique, temporelle, et on ne peut pas, on passe plutôt de l'adverbe sensiblement à l'adverbe absolument. Donc, le principe des indiscernables devient chez Diderot, ce qu'il n'était pas du tout chez Malebranche ou chez Leibniz, un principe de mutabilité. Ce qui ne veut pas dire, c'est une idée qui intéresse beaucoup Diderot et ses contemporains, qu'on ne peut pas chercher des prototypes. Hein, on peut expliquer les animaux tels qu'ils existent par, on suppose, une forme antérieure. Je reviens aux deux feuilles. Il n'y en a pas deux jamais semblables. Elles sont vertes. Mais des verts de nuances différentes. Et là, on retrouve le Diderot des salons, le Diderot qui s'intéresse à l'esthétique, et qui critique les peintres qui réduisent tout ce qu'ils voient à un schéma préétabli, qui ont une manière qui est toujours la même. Et Diderot commente, c'est ici comme aux feuilles d'un arbre, pas une qui soit du même vert, pas un de ces individus qui soit le même d'action et de position. Même dans une situation où la société tend à effacer les différences, par exemple, quand vous avez des soldats qui ont tous le même uniforme ou des religieux qui ont tous la même tenue, eh bien, Diderot s'amuse à voir les nuances. À la messe ou à Vêpres, au couvent des Chartreux, on voit sur deux longues files parallèles 40 à 50 moines, même stalle, même fonction, même vêtements, et cependant, pas deux de ces moines qui se ressemblent. Et le grand peintre ou le grand écrivain, c'est celui qui, justement, arrive à rendre compte de ces nuances. Par exemple, Diderot admire le grand romancier anglais, Richardson, hein, dans Clarissa Harlowe. « Comme dans la nature au printemps, on ne trouve point deux feuilles qui soient du même vert. Quelle immense variété de nuances !» De même, ailleurs, il va prendre encore un autre exemple dans ses textes sur le théâtre. « Jamais deux amants ne se sont dit sur le même ton « je vous aime » et jamais deux femmes n'ont répondu identiquement « vous êtes aimés ». Dans le système de la nature de d'Holbach, on trouve la même image. Parmi les individus que nous connaissons dans une même espèce, il n'en est point qui se ressemble exactement, et cela doit être ainsi. Puis il y a une note, ceux qui ont observé la nature de près savent que deux grains de sable ne sont point strictement égaux. Cette vérité a été très bien sentie par le profond et subtil Leibniz. Alors qu'est-ce qui sépare cette affirmation du système de la nature de la même affirmation qu'on trouve sous la plume de Diderot? Eh bien, c'est dans le salon de 67, on a Diderot qui parle avec un ami, un abbé. Diderot défend une conception matérialiste de la nature, l'abbé défend une conception plus systématique, et puis un coup de vent. Alors il prend l'image des grains de sable, et puis un coup de vent, et hasard, l'abbé a un grain de sable qui lui rentre dans l'œil. Et donc, ça dérange un peu la discussion. Vous voyez, le type d'ironie où il y a du récit romanesque qui intervient dans la réflexion. Et ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour pour nous faire oublier qu'il est en train de nous faire de la philosophie, mais c'est pour mimer la nécessité de prendre en compte la réalité hasardeuse du monde et empêcher que le système se referme en une conception totalement abstraite. L'autre grande exigence de Diderot, c'est qu'il faut qu'il y ait pourtant de l'unité pour qu'il y ait du sens. Et pour rendre compte de ce sentiment d'unité, eh bien une image revient fréquemment, celle de la mer, de l'océan. Et c'est d'autant plus drôle, enfin ici on est à Bordeaux, en bord de la mer, mais Diderot c'est un Langrois, hein, cité au cœur de la Champagne, et pas au cœur, au bord de la Champagne. Et la première fois qu'il a vu la mer, c'est en 1773, lorsqu'il va prendre le chemin de Saint-Pétersbourg et passer par la haie. C'est là qu'il a vu pour la première fois la mer, mais il a une connaissance littéraire de la mer et c'est une image qu'il utilise souvent. Dès sa première traduction, j'évoquais tout à l'heure Shaftesbury, il publie une traduction de Shaftesbury et il y ajoute des notes qui sont personnelles. Et dans l'une d'elles, il dit « Dans l'univers, tout est uni. Cette vérité fut un des premiers pas de la philosophie. Et ce fut un pas de géant. Tout est uni. » Plus loin, Shaftesbury mêle la foi dans un ordre qui aurait à la fois un sens moral et qui nous donnerait du plaisir. Si c'est une fois l'ordre et la beauté de l'univers qui soient les objets de notre admiration et de notre amour, nos affections partageront la grandeur et la magnificence du sujet et l'élégante sensibilité pour le beau, disposition si favorable à la vertu qui nous conduira jusqu'à l'extase. Donc Shaftesbury, là, c'est le déiste pour qui cet ordre du monde, nous l'admirons et il nous convainc que nous pouvons adhérer à cet ordre du monde en étant vertueux. Et le dernier mot, vous avez vu, c'est « nous conduira jusqu'à l'extase ». Ce n'est pas un penseur mystique, mais là, il y a comme une tentation mystique. Et Diderot ajoute une note, lui. À mesure que l'univers s'étend aux yeux d'un philosophe, tout ce qui l'environne se rapetisse. Alors là, aujourd'hui, nous, on a l'habitude des logiciels qui nous permettent des zooms comme ça. Et dès le milieu du 18e, vous avez ce type d'image. À mesure que l'univers s'étend aux yeux d'un philosophe, on a l'impression d'un recul. Tout ce qui l'environne se rapetisse. La terre s'évanouit sous ses pieds. Lui-même, que devient-il? Cependant, il ressent un doux frémissement dans cette contemplation qui l'anéantit. Après s'être vu noyé, pour ainsi dire, et perdu dans l'immensité des êtres, il éprouve une satisfaction secrète à se retrouver sous les yeux de la divinité. Alors, deux remarques. Diderot, athée, n'a aucun scrupule à continuer à convoquer la divinité. Certains diront, mais il hésite entre athéisme. Je ne crois pas. Mais la divinité est une image de l'unité. Et l'autre remarque, c'est que vous avez quelque chose d'assez étonnant qui reparaît plusieurs fois chez Diderot, la noyade euphorique. La réalité d'une noyade n'est pas de cet ordre, mais comme dans un sentiment d'appartenance au tout. Autre texte important dans cette évolution, la lettre sur les aveugles, où Diderot convoque un grand mathématicien anglais, aveugle, qui devient l'image du philosophe qui dit « L'ordre du monde, je suis aveugle, je ne le vois pas, et je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas d'ordre dans le monde », mais qui pourtant imagine cette unité. Et il est malade, sur son lit de mort, un prêtre anglican vient lui parler de Dieu, et le philosophe répond: transportez-vous donc avec moi sur les confins de cet univers, au-delà du point où je touche et où vous voyez des êtres organisés, promenez-vous sur ce nouvel océan et cherchez à travers ces agitations irrégulières. Donc, vous voyez, ces agitations irrégulières. On a la totalité, mais il ne faut pas que ça soit un ordre du monde simple. Cherchez donc à travers ces agitations irrégulières quelques vestiges de cet être intelligent dont vous admirez la sagesse. Bien, lui la récuse et plus sensible à une espèce de grand désordre de la nature sans que cela signifie une angoisse. Dans un des articles de l'encyclopédie, l'article asiatique, philosophie des Asiatiques, vous avez explicitation de l'image, Dieu est comme un océan immense dans lequel se mouvraient plusieurs fioles d'eau. Les fioles, quelque part qu'elles puissent aller, se trouvent toujours dans le même océan, dans la même eau, et venant à se rompre, l'eau qu'elles contenaient se trouverait en même temps unie à son tout, à cet océan dont elles étaient des portions. L'attitude des historiens de la philosophie consiste à établir des différences entre christianisme orthodoxe, déisme, athéisme. Et il me semble que la logique de l'image, là, passe au-delà d'une trop simple différenciation entre les attitudes intellectuelles. Et le dernier livre que Diderot laisse inachevé à sa mort, Les éléments de physiologie, s'achève par une image étrange. Il ne croit pas à la survie de l'âme, il ne croit pas à la résurrection, mais il croit à la continuité des générations, il croit à ce qu'il appelle la postérité, et il dit « Nous sommes tous, humains que nous sommes, intéressés par l'idée de l'image que nous laisserons de nous, ce qu'on dira de nous après notre mort. » Et il prend une métaphore pour rendre compte de ce défunt rendu à l'indistinction de la matière, mais qui essaye d'entendre ce qu'on va dire de lui. Je cite Diderot, « C'est un nageur qui regarde son vêtement étendu sur le rivage. « Homme qu'on ne craint plus, qu'avez-vous alors entendu ?» C'est-à-dire, tous ceux qui, quand ils étaient vivants et craints, étaient loués, eh bien, une fois, ça c'est une remarque politique, une fois qu'ils sont morts, on va enfin pouvoir dire ce qu'on pensait d'eux. Alors, on pourrait être tenté de voir dans cette séparation du nageur et de son vêtement une reprise de l'opposition de l'âme et du corps. Or, c'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit du corps qui est rendu à l'océan et le vêtement, c'est la trace qui reste de nous après notre mort. Je crois que c'est la force de l'image de l'océan qui pousse Diderot à tantôt avoir des formulations de type religieux ou mystique, tantôt au contraire d'insister sur le matérialisme, c'est-à-dire l'océan comme l'ensemble de ce qui existe, et on ne peut pas en sortir. J'ai essayé, en suivant ces deux images, ce qu'on appelle les indiscernables, c'est-à-dire pas deux feuilles du même vert, pas deux amants qui se disent je t'aime de la même manière. Et d'autre part, cette autre image de l'océan. J'ai essayé de voir comment, chez Diderot, la pensée s'organise et avance de manière logique, mais que les images sont une force qui empêche cette logique de s'organiser dans un système constitué. Nous avons besoin de références, nous avons besoin de lois pour vivre dans le monde, pour transformer le monde, il faut des lois. Pour transformer la société, il faut des systèmes sans doute. Il faut écrire, publier clandestinement et diffuser un système de la nature. Mais Diderot, à côté, écrit cet antisystème permanent qui nous dit que les systèmes ne suffisent jamais et ont toujours un côté desséchant et un risque de dogmatisme. Et c'est pourquoi Diderot, qui a longtemps été négligé, oublié, refoulé, est aujourd'hui celui, je crois, de nos philosophes français, en tout cas du 18e, qui nous parle le plus, parce qu'il essaye de penser la complexité du monde sans renoncer à mettre de l'ordre, mais sans transformer cet ordre en un système qui risquerait de devenir dogmatique. Je vous remercie.